Let's see what we got. All the way up. Go! Here's Chauncey Phillips. Here it is. He's got it! He's got it! Chauncey Phillips hits the three.
With a steal and the drive. Lays it up! Lays it in! Count that, baby! And a foul!
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des 3 Pistons. À chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et après notre dernière escale est bien consacrée à Will Chamberlain et à sa saison de coaching à San Diego, on retourne, comme prévu, à Détroit pour cette fois-ci un gros morceau, puisqu'aujourd'hui je vous propose de parler de Rip Hamilton, membre incontournable de la Going to Work era, cette équipe des Pistons qui dominait la conférence Est au milieu des années 2000. Alors, contrairement aux joueurs de l'ombre qu'on évoque habituellement dans ce podcast, comme Fenix Dumbo, Reggie Harding ou Dan Rundfield, eh bien évidemment, Rip Hamilton est immensément plus connu. Champion avec Détroit en 2004, bien sûr, 3 fois All-Star, maillot 32 retiré dans la Motor City, et évidemment, eh bien ce masque, ce fameux masque qui a beaucoup fait pour la notoriété de Rip. Mais si vous pouvez le reconnaître bien d'un coup d'œil grâce à ce masque, entre autres, est-ce que vous connaissez réellement Richard Rip Hamilton? Finalement, je me suis rendu compte qu'il était quand même constamment en retrait pendant sa période Pistons, derrière un Big Ben plus iconique, un Rashid Wallace plus exubérant ou un Bill Ups plus médiatiquement présent sur le long terme. En fait, de Rip Hamilton, bien on sait qu'il était un super shooter à mi-distance, qui portait un masque, et c'est presque à peu près tout. Alors je me suis dit qu'il était temps de lui dédier une chronique, mais d'essayer de regarder qui se trouvait vraiment derrière ce fameux masque. J'avais envie de vous faire rencontrer peut-être le vrai Rip Hamilton, l'importance qu'il avait pour les Pistons de cette époque-là, mais aussi les zones d'ombre qui ont assombri son passage à Détroit. Donc pour bien comprendre le joueur, on parlera bien de son passé, puisque c'est essentiel dans sa construction, et c'est un sujet qui n'est finalement presque jamais évoqué. Avant Détroit, Rip Hamilton, c'était un joueur des Wizards, et ce qu'il a vécu là-bas a beaucoup compté dans son parcours. Bref, on attaque la carrière d'un joueur bien plus connu que nos habituels no-name, donc on n'aura pas le temps, bien sûr, de tout détailler, alors je compte surtout me focaliser sur qui était réellement Rip Hamilton et quel grand basketteur il était au-delà de ce qu'on connaît déjà. L'épisode 76 des Chroniques de Motor City, ça commence maintenant. Bon, la première chose dont on doit parler avec Rip Hamilton, c'est qu'il n'a pas attendu d'arriver à Détroit pour être un sacré bon joueur de basket. C'est un peu passé sous les radars, mais Rip Hamilton, c'est quand même le 7e choix de la draft 1999, donc dans la première partie de la loterie, ce qui veut toujours dire quelque chose. Et si Rip a fini si haut, c'est qu'il a fait une énorme carrière NCAA. 3 ans à Connecticut, de 96 à 99, un game winner en 98 marquant pour envoyer son équipe en finale régionale, seulement battue ensuite par North Carolina, tête de série numéro 1, puis carrément, l'année suivante, le titre NCAA avec UConn, qui a roulé sur tout le monde, y compris Duke, dans le dernier match du Final Four, cette énorme équipe de Duke qui placera 4 joueurs en loterie pick de la draft à venir, dont Elton Brand, qui finira premier choix de la draft carrément. Et dans cette finale, contre Duke, eh bien Rip Hamilton a quand même lâché 27 points, 7 rebonds et 3 passes décisives. Et à la fin de la saison, il a très logiquement été élu Most Outstanding Player, c'est-à-dire meilleur joueur tout simplement. Et c'est grâce à ses performances, du coup, que Rip se présente à la draft et qu'il est donc choisi, comme je l'ai dit, en 7e, c'est quand même pas rien, par les Washington Wizards. Alors les Wizards de cette époque-là, parlons-en un peu. C'est globalement, bien sûr, une équipe qui choisit haut à la draft, c'est une mauvaise équipe, menée par Joanne Howard et un vieillissant Mitch Richmond. Mais pourtant, eh bien, cette équipe-là va énormément faire parler d'elle, puisqu'en janvier 2000, donc pendant la saison rookie de Rip Hamilton, eh bien, c'est Michael Jordan en personne qui débarque dans un poste de président des opérations basket. Alors, avec cette lumière, eh bien, la saison rookie de Rip est plutôt correcte. Il joue 71 matchs, en majorité en sortie de banc, et tourne à 9 points de moyenne. Alors, bien sûr, c'est pas très efficace, il y a beaucoup de déchets dans le jeu de ce jeune Rip, mais les choses se mettent en place tout doucement. Et pour sa saison sophomore, Rip Hamilton se décale un peu et joue la majorité de ses matchs poste 3, lui qui est bien sûr naturellement un arrière. À la mi-saison, alors que Washington est bien patoche quand même au fond de la conférence Est, le coach le lance comme titulaire, et même si la présence de Rip ne change pas grand-chose niveau bilan, il y a quand même un peu plus de cohérence avec lui pour les Wizards sur le terrain. Mais la vraie révolution, on va la voir pour la troisième saison de Rip Hamilton en NBA. Probablement bien lassé par l'échec des Wizards, Michael Jordan décide de revenir une deuxième fois et annonce le 25 septembre 2001 qu'il redevient joueur de basket et qu'il guidera cette équipe des Wizards. À 38 ans, Jordan remet le maillot pour encadrer cette équipe. Et tout d'un coup, eh bien, Rip Hamilton reçoit un sacré soutien en attaque, en plus d'un mentor un peu inespéré. Et effectivement, il faut le dire, Jordan va faire énormément pour Rip, le guidant en match, mais aussi à l'entraînement. Jordan, qui en fait avec l'âge a développé toute sa palette offensive, oriente Rip Hamilton sur les tirs à mi-distance et lui apprend à profiter des déséquilibres de son défenseur pour prendre les petits shoots en sortie d'écran qui feront la marque de fabrique de Rip Hamilton durant toute sa carrière. Et si finalement, Hamilton ne sera jamais vraiment dans l'élite de l'efficacité en NBA, la faute justement à ce jeu mi-distance très compliqué, on note ensuite une vraie amélioration à la suite de cette saison avec Jordan. Et les deux vont aussi très bien cohabiter sur le terrain, puisqu'après 50 matchs, eh bien les Wizards en sont à 27 victoires pour 23 défaites, un bilan positif qui était inimaginable après leur triste saison précédente. Mais malheureusement pour eux, bien les choses vont se gâter en fin de saison à cause des blessures de Jordan qui manque 12 matchs consécutifs et celle de Rip Hamilton. Les Wizards finissent malheureusement hors playoff et en fait, bien le retour de Jordan, c'est quand même un demi-échec. Alors, Washington va changer certaines choses et parmi leurs moves d'intersaison, eh bien, il y aura Rip Hamilton. L'échange va se faire très tard, le 11 septembre 2002, quelques semaines à peine avant le début du training camp, et ce sont eh bien, évidemment nos Pistons qui vont se positionner. Pour récupérer Rip Hamilton, Joe Dumars, devenu GM des Pistons, envoie un joueur de complément, Brian Cardinal, mais surtout son meilleur scoreur, le double All-Star, Jerry Stackhouse. Alors ce deal, on le sait maintenant, sera 100% gagnant pour les Pistons, mais essayons un peu de regarder le contexte de l'époque. Côté Wizard, on lâche quand même Rip Hamilton, qui a pris un vrai rôle dans cette équipe et qui n'a que 24 ans. Mais quand même, on récupère dans la balance un All-Star de 27 ans, meilleur scoreur NBA une saison auparavant, sachant que pour eux, pour les Wizards, l'objectif c'est de gagner tout de suite, puisque Jordan n'est pas revenu sur le terrain que pour développer les jeunes. Et puis, il y a aussi quelques bruits de couloir disant que Jordan ne voulait pas vraiment de Rip Hamilton et qu'il préférait Jerry Stackhouse, qui venait de North Carolina comme lui. Et peut-être quelque chose qui confirme cela, c'est que Rip Hamilton a déclaré plus tard dans sa carrière que lui, de son côté, il n'avait jamais souhaité partir et qu'il avait tout aimé de son passage à Washington. Mais alors, côté Détroit, pourquoi avoir fait ce move? Pourquoi lâcher son All-Star alors même que l'équipe avait gagné 50 matchs en 2002 et qu'elle était allée au deuxième tour des playoffs? Eh bien, c'est assez simple, c'est même le contraire des Wizards. Déjà, Rip Hamilton est plus jeune, mais surtout, les Pistons avaient déjà compris les limitations de Stackhouse. Lors de la série de playoffs perdue 4-1 contre les Celtics, l'attaque des Pistons avec Stackhouse était enrayée et après leur victoire au match 1, eh bien, Détroit n'avait marqué que 75 petits points de moyenne dans les 4 matchs suivants, dans les 4 défaites suivantes. Et comme Stackhouse avait fait comprendre qu'il souhaitait un contrat max, eh bien, Joe Dumars avait tranquillement refilé le boulet à Michael Jordan. Et sans surprise, eh bien, c'est lui qui a eu raison. Les Wizards n'ont pas progressé d'un pouce avec Stackhouse à la place d'Hamilton la saison suivante, avant de complètement s'effondrer par la suite. Alors, de l'autre côté, Rip Hamilton débarque eh bien, dans une équipe des Pistons avec un nouveau visage, puisque ce même été, avant lui, c'est Tayshaun Prince qui a débarqué à la draft, puis Chauncey Billups qui est arrivé dans le cadre de la Free Agency. Ben Wallace qui était déjà là, Prince, Billups et maintenant Rip Hamilton. Le noyau de la Going to Work era est là et les Pistons sont prêts à dérouler.
What's up? It's Richard Hamilton from the Detroit Pistons.
Hamilton right down the middle for the bucket and the foul.
On the night, Rip Hamilton takes it to the hole and off the glass. Count it.
Describe Richard Hamilton, a player. Relentless, like a track star, you know, run up and down the court, you know, try to get my teammates involved and just, you know, just have fun with the game.
Pour son premier match en carrière avec les Pistons, Rip Hamilton marque 22 points et prend 6 rebonds lors d'une victoire 86-77 sur les Knicks, ce qui lance idéalement sa saison. Évidemment titulaire poste 2, Rip débute les 82 matchs de la saison pour la première fois de sa carrière et finit meilleur marqueur des Pistons avec seulement, entre guillemets, 19,7 points de moyenne par match, preuve du bon collectif des Pistons qui sera la norme pendant les 10 prochaines années. Cette première année avec Rip Hamilton, ce sera aussi la première des 6 saisons consécutives où les Pistons atteindront au minimum les finales de conférence. De 2003 à 2008, le Détroit de la Going to Work era sera un prétendant pour le titre crédible et sera toujours l'une des 3 meilleures équipes de la conférence Est. Alors je vous passe tous les détails du développement de cette équipe, on en a longuement parlé déjà dans ce podcast, mais après cette saison 2003 terminée sur un sweep, malheureusement contre les Nets en finale de conférence, les Pistons vont licencier Rick Carlisle pour embaucher Larry Brown. Et ce changement va avoir un vrai impact sur la carrière de Rip Hamilton. Si on veut résumer et sans trop caricaturer, Larry Brown est d'abord venu avec ses préceptes défensifs dans la droite lignée de ce qu'avait fait Carlisle, mais en poussant encore un peu plus loin. Avec lui, chacun se sacrifie pour l'autre, on joue collectif avant tout, et il n'y a que très peu de place pour les artistes. Et de l'aveu même de Larry Brown, eh bien, il ne savait pas quoi faire du tout d'un joueur comme Rip Hamilton quand il est arrivé dans la Motor City. Et pourtant, pendant 2 saisons, les choses ont marché, avec un titre dès la première année en 2004 et une défaite en finale au match 7 la saison suivante. Et ça, ça a été possible entre autres grâce à l'intelligence de Rip Hamilton. Rip, il a su sacrifier une partie de son jeu, il a su laisser ses coéquipiers prendre de bons shoots, même si lui avait sans doute plus de chances de réussir des tirs plus compliqués. En tant que meilleur attaquant de l'équipe, Rip Hamilton a su rester dans un rôle très précis de celui qui justement prend et met les tirs difficiles quand rien d'autre n'a marché avant. En fait, pendant ces 2 saisons de Larry Brown à Détroit, ça a été extrêmement rare de voir Rip Hamilton demander à tout prix le ballon pour faire son truc. Même s'il était le joueur à avoir le plus la balle à Détroit, c'est vrai, son taux d'usage était très bas par rapport aux autres stars de la ligue et finalement il était vraiment très très proche d'un Billups. Et puis, Rip, balle en main, il passait presque autant qu'il shootait puisqu'il était l'un des tout meilleurs à la passe à son poste en 2004 et 2005. Et globalement, accepter de faire le sale boulot en défense, courir après les écrans en attaque pour ouvrir la voie aux autres, prendre des shoots très compliqués au risque d'avoir une adresse en berne, mais être une solution quand les choses ne marchaient pas vraiment, voilà en quelques lignes comment résumer Rip Hamilton sous Larry Brown. Et puis, c'est aussi pendant les années de Larry Brown, précisément au début de la saison 2003-2004, que Rip Hamilton va enfiler son fameux masque qui lui servira de carte de visite pour le reste de sa carrière. Rip, il a déjà été victime de 2 fractures au nez en 2002 et 2003, et puis il connaît un 3e accrochage lors de sa saison 2003-2004 lors d'un drive dans la raquette. En fait, fatalement, avec son gabarit moyen et sa propension à courir un peu partout autour de la raquette, Rip Hamilton, c'est une cible facile pour les coups de coude qui traînent. Alors, le 10 mars 2004, lors d'une victoire 98-65 contre les Bulls, et oui, c'est le vrai score, Rip Hamilton enfile pour la toute première fois de sa carrière un masque de protection. Il se trouve que même une fois sa facture guérie, eh bien Rip ne l'enlèvera plus jamais, et même mieux, il fera de ce masque son signe distinctif. Désormais, cela fait partie de son identité, et n'importe quelle personne peut le reconnaître grâce à ça, qu'elle suive le basket ou non d'ailleurs. Ce masque deviendra même un vrai business avec son orthésiste nommé Jeremy Murray, qui a expliqué qu'au début des années 2000, il réalisait entre 75 et 100 moulages de masques par an pour des basketteurs de tout niveau. En fait, avec Rip Hamilton entre-temps devenu All-Star, eh bien il a là un super ambassadeur pour le sujet de la protection faciale. Et l'image de Rip Hamilton se trouvera elle-même bonifiée avec ce masque, devenant en quelque sorte le symbole de sa robustesse et de sa résilience. Bref, on avance dans le temps Et après deux saisons sous Larry Brown, eh bien les choses changent à Détroit avec le recrutement de Flip Saunders. On a déjà dédié tout un podcast cette saison 2006, donc on ne va pas tout détailler ici. Mais sachez une chose, avec Saunders, les Pistons changent toute leur attaque, passant de système très rigoureux à plus de créativité pour les joueurs. Et quand on parle de créativité, eh bien on parle des joueurs doués balle en main, principalement Chauncey Billups et donc Rip Hamilton dans cette équipe. Effectivement, en 2006, Rip va passer un cran en termes d'usage, va connaître la meilleure efficacité de sa carrière d'assez loin et fêtera pour l'occasion la première de ses trois sélections All-Star consécutives. Cette saison-là, les Pistons gagneront 64 matchs, record all-time de la franchise, mais Détroit ne pourra rien faire en finale de conférence face aux Heat de Wade et Shaq. Alors le système Saunders plaît aux joueurs offensifs comme Rip, mais malheureusement c'est autre chose pour les joueurs de l'ombre, et à la fin de cette saison, c'est Big Ben Wallace qui quitte les Pistons, direction les Bulls. Ce départ, c'est aussi le début de la fin de la Going to Work era, et pour Rip Hamilton, ça représente en quelque sorte tout doucement le début du déclin.
Butler against Hamilton starts to drive, stripped by Rip.
Ripped and stripped.
Here he comes, up the middle, still with it, down the lane, double clutcher, off glass, got it, count that baby, and a foul.
Alors en 2007, toujours sous Saunders, tout va bien pour Rip. Il est All-Star de nouveau et tape même un record en carrière le 7 décembre, en marquant 51 points contre les Knicks de New York, ce qui fera de lui, pour la petite histoire, le premier joueur adverse depuis Michael Jordan à marquer plus de 50 points au Madison Square Garden. Mais là encore, les Pistons échouent une nouvelle fois en finale de conférence contre les Cavs de LeBron James. Wade en 2006, James en 2007 et bientôt les Celtics. Bref, les Pistons commencent tout doucement à être dépassés et effectivement, Flip Saunders est licencié en 2008 pour être remplacé par le coach rookie Michael Curry. Mais ce n'est pas là le plus gros changement effectué par la franchise cet été-là, puisque le 3 novembre, alors que la saison a débuté depuis deux matchs, eh bien les Pistons échangent leur leader Chauncey Billups, le partenaire de Rip Hamilton dans le backcourt, contre eh bien, l'explosif Allen Iverson. Et ce move a énormément de répercussions sur la franchise, mais principalement sur Rip Hamilton. D'abord, il perd son ami Billups, avec qui il formait un tandem très complémentaire. Puis, Détroit échange un meneur contre un arrière, c'est donc Rodney Stuckey qui est propulsé titulaire. Rip est donc frontalement en concurrence avec Iverson, tout en devant gérer l'ascension de Stuckey. Pour le coach Michael Curry, c'est l'enfer de devoir gérer tous ses égos. Alors jusqu'en décembre, Curry essaye des trucs, jouant à la fois avec Stuckey, Iverson et Rip Hamilton en 3, dans l'équivalent d'un 5 small ball, ou encore carrément sans meneur, juste avec Iverson et Hamilton, qui se marchent malheureusement dessus. Et puis en décembre, Rip se blesse et c'est Stuckey qui rentre définitivement comme starter dans le backcourt. Au retour de Rip Hamilton, Stuckey est désormais indiscutable, sans trop qu'on sache pourquoi, et Iverson a la promesse de Joe Dumars d'être titulaire. Rip Hamilton est donc, pour la première fois de son ère à Détroit, officiellement un joueur du banc. Et même si ses temps de jeu sont très corrects avec à chaque fois près de 30 minutes de jeu, c'est en fait son statut de cadre qui est remis en cause. Mais malheureusement, les résultats catastrophiques vont s'enchaîner pour les Pistons, qui vont connaître notamment une série de 8 défaites consécutives en février. Michael Curry doit de nouveau changer les choses et va remettre Rip Hamilton dans le 5 à la faveur d'une blessure d'Iverson, qui ne retrouvera plus jamais les terrains. Et à la fin de cette saison, eh bien, les Pistons se font sweeper au premier tour des playoffs par les Cavs. Michael Curry va partir, tout comme Allen Iverson. C'est cette fois presque la fin de la Going to Work era, mais pas encore de l'histoire de Rip Hamilton avec Détroit. Rip va encore passer 2 ans dans la Motor City, 2 ans où les Pistons seront coachés par John Custer, et où Rip Hamilton connaîtra une nouvelle forme de concurrence avec la venue de Ben Gordon, signé pour un montant pharaonique pour l'époque. Cette saison 2010 sera très bancale, avec l'échec du double recrutement Gordon-Villanueva, mais pour Rip, c'est surtout la saison suivante, en 2011, que tout va se casser. Pour cette deuxième saison sous John Custer, Rip Hamilton devient remplaçant après quelques semaines où les Pistons ne sont vraiment pas très bons, et s'il accepte la situation au début, eh bien, il va très vite en avoir marre. Hamilton et Custer se prennent la tête à l'entraînement, Rip insultant son coach de loser, qui n'est à ses yeux plus rien d'autre qu'un assistant raté. Et comme Rip ne fait quasiment plus aucun effort défensif et continue de croire qu'il est le joueur de 2006 en attaque, eh bien Custer, qui a aussi beaucoup de temps dans l'histoire, hein, décide de se passer de lui lors d'un match en janvier 2011. C'est un DNP pour Hamilton, le premier sous le maillot des Pistons, ce qui va entraîner le début d'une crise à Détroit. Immédiatement, Rip laisse entendre aux journalistes que son coach lui manque de respect. Prince prend sa défense en parlant de bouffonnerie. Et un mois plus tard, sept joueurs que sont Rip Hamilton évidemment, Tayshaun Prince évidemment, mais aussi Ben Wallace, Rodney Stuckey, Tracy McGrady, Chris Wilcox et Austin Dale, ne se présentent pas à l'entraînement le matin d'un match contre les Sixers. C'est la grève, c'est la mutinerie à Détroit, et Rip reste de côté pendant 23 matchs, le temps que Joe Dumars mette tout le monde autour d'une table pour essayer d'arrondir les angles. Rip Hamilton retrouve la rotation pour finir la saison, jouant même les 10 derniers matchs comme titulaire, mais en fait c'est uniquement pour sauver l'image publique de la franchise, puisque immédiatement après cette saison 2011, Custer est viré et Rip Hamilton est coupé par les Pistons, qui le laissent partir libre direction Chicago. Les deux saisons de Rip Hamilton aux Bulls seront très moyennes au point que Chicago déclinera sa team option et le laissera être agent libre. Mais à 34 ans, alors que les blessures commencent à s'accumuler, eh bien Rip Hamilton préférera annoncer sa retraite et mettre fin là à une carrière qui est quand même très complète. Mais sa retraite sera le début d'autre chose puisque Rip Hamilton va s'employer à se réconcilier avec tout le monde. D'abord avec John Custer qui déclara en 2012 qu'il n'avait plus aucun désaccord avec Rip Hamilton, puis ensuite avec les Pistons, qui iront même jusqu'à retirer le maillot numéro 32 de Rip en février 2017 pour la dernière saison au Palace d'Auburn Hills. Puis, Rip continuera aussi à s'impliquer dans son sport en tant que mentor et ambassadeur. Il soutient les programmes de basketball pour les jeunes de la NBA et s'affiche régulièrement dans les opérations de la Ligue à l'international pour transmettre son expérience aux futures générations. Bref, Rip Hamilton devient au fur et à mesure des années après sa retraite un modèle aujourd'hui reconnu, discret, mais dont la voix porte, immédiatement identifié comme membre important de l'une des meilleures équipes des Detroit Pistons. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cette chronique aujourd'hui. Après tout, on aurait pu parler de Rip il y a bien longtemps, mais en fait, vous raconter ses prouesses saison après saison, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéressait. J'avais plutôt envie qu'on regarde son parcours, qu'on comprenne comment le contexte l'a changé et comment elle a été assez intelligente pour s'adapter. Après tout, par exemple, sans Jordan qui s'immisce, les Wizards en reconstruction auraient pu faire de Rip Hamilton leur franchise player et il aurait peut-être pu faire partie de l'élite de la NBA en attaque. Mais à Détroit, par exemple, il a accepté de faire d'énormes sacrifices, ce qui l'a mené à un titre de champion et à trois sélections au All-Star Game amplement méritées. Mais, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ce podcast, au fur et à mesure des années, ces sacrifices ont été de plus en plus durs à porter. Et en voyant son équipe se dissoudre, d'abord avec le départ de Big Ben, puis avec celui de Billups, Rip a décidé qu'il n'avait plus autant de raisons de faire ses efforts. Une fois sa prolongation signée en 2008, on a eu un joueur qui a décliné, qui est passé de cadre du vestiaire à terreur du vestiaire, au point de prendre les décisions de ses coachs de manière trop personnelle et de gâcher la fin de son histoire avec Détroit, même si finalement toutes les parties se sont plutôt bien réconciliées. Bref, je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous raconter sur Rip Hamilton. Vous m'excuserez de cette chronique qui sort un peu en retard, mais ça devient aussi difficile pour moi de tenir le rythme actuellement, donc certains épisodes sortiront parfois avec quelques jours de décalage. En tout cas, merci à vous tous d'être toujours là. Évidemment, comme d'habitude, toutes les chroniques de Motor City sont à retrouver sur les bonnes applis de podcast et tous les épisodes sont aussi disponibles sur YouTube. Merci à tous ceux qui parlent de ce podcast autour d'eux ou qui partagent les chroniques sur les réseaux, vous donnez une force incroyable. Et moi, en attendant le prochain podcast, je vous invite à me retrouver sur Twitter, @MotorCityPod. Merci encore pour tout votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.